je milite demain, tu me demandes de, on signe un papier pour légaliser le dopage, mais qu'ils prennent tous des picots dans le cul, si c'est pour les faire courir. Hein.
Daniel, tu veux parler?
Ça c'était après le jeudi noir des résultats des.
Ah, oui.
C'est le 5 février, dis donc, j'avais l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça.
L'anniversaire
de Neymar où tout le monde est venu, là où c'était la fête.
Ah, au Bercy, j'étais bourré, là.
Exactement.
Ah, c'est ça.
Exactement.
Didier Quillot est venu tout à l'heure dans Team Dugas.
Ouais.
Et tout ça t'a inspiré un avis, on va dire, global sur la situation actuelle du foot français.
Eh ben, pas exactement comme ça, dans cet ordre-là, Gilbert. Non, je vais t'expliquer. Quand on a échangé cet après-midi et que je t'ai dit que je voulais parler de ça, je ne savais pas que Didier Quillot allait venir dans Team Dugas. Je savais que j'allais le croiser dans Breaking Foot avec Momo. Et donc, je me suis dit, je vais aller lui poser la question sur l'état de notre foot, mais pas sur les résultats de la Coupe d'Europe de jeudi dernier, parce que lui, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? C'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui fait les équipes, c'est pas. Mais plus sur l'ambiance générale autour du foot français et tous les dossiers qui sont sur le devant de l'actualité ces derniers temps. Et j'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous? Vous dormez à la Ligue ou pas? Vous êtes attaqué de toutes parts, l'image est massacrée de tous les côtés et il y a personne qui réagit. Et quelle n'a pas été ma surprise d'arriver au moment de Team Dugas et de voir qu'il passait ici avant d'aller là-bas. Et je l'ai entendu. Et ça m'a fait vraiment plaisir.
Ouais, mais il n'y a pas 4 points, il y a 11 points. Donc là, on se défend quand même. Voilà. Ça rétablit quand même.
Donc, ça m'a fait plaisir parce que j'ai noté que la phase de contre-attaque était arrivée. Et qu'en tout cas, c'était la démarche de sa communication. Parce qu'aujourd'hui, quand même...
Oui, il a notamment dit...
D'abord, sur cette prime d'éthique, ouais. De dire clairement que la façon dont certains médias l'ont présenté, c'était absolument malhonnête intellectuellement. Que lui, son rôle, tant que le PSG n'est pas sanctionné, s'il doit l'être dans les différents dossiers, c'est de rappeler, et il l'a fait dans Breaking Foot, et je suis content qu'il l'ait fait... De rappeler Javier Tebas à ses obligations premières, à savoir s'occuper de la Liga et ne pas se mêler du football français. Je disais, j'ai envie de voir un article dans Marca ou dans As avec en une Didier Quillot renvoie à ses premières préoccupations Tebas.
Qu'il
aille le faire chier comme lui il nous fait chier. Qu'il renvoie aux Lyonnais, à la Bundesliga et au Bayern. Qu'il défende les intérêts du football français. Que le PSG ait fait ci ou ça avec le fair play financier. Qu'il fasse quelque chose qu'il a également fait tout à l'heure. Et c'est pour ça que je répète et que finalement, encore une fois, je dis à quel point je suis content. Il a dit, mais il a rappelé de quels avantages avait pu jouir le Real et le Barça à une autre époque dans le football. Il est pas en train de dire, parce qu'il y a des règlements qui doivent être respectés, le PSG, l'UEFA doit pas sanctionner le PSG, mais laissez les enquêtes se faire, laissez le temps. Il est venu, j'espère que c'est le temps de la contre-attaque. La deuxième couche à tout ça, ce que j'attends, c'est maintenant qu'à un moment quand même, les dirigeants du foot français, derrière Didier Quillot, se serre un petit peu les coudes parce que la situation de notre foot, elle est quand même pas bonne du tout. Au-delà des résultats sportifs, la situation globale, je répète, toutes ces affaires-là. Moi, ce que je vois, c'est plutôt chacun dans son coin, chacun ses petits intérêts. C'est un Jean-Michel Aulas qui a l'air tout content quand les autres clubs sont dans la merde. S'il peut foutre un coup de talon à l'OM, il met un coup de talon à l'OM. Et s'il peut espérer que le PSG dégringole, il sera content si ça dégringole. Après, je lui dis, ah, mais si le PSG dégringole, si l'OM qui t'essaye de mettre des coups de talon sans arrêt, dans une Ligue 1 qui va devenir à la Bulgarie, tu vas faire quoi? Tu vas te gaver parce que tu vas être champion de France? Mais soyons sérieux 2 minutes. Un peu d'unité dans ce football français qui est complètement à la rue. Qu'on entende des présidents se mobiliser. Il y a un truc qui est absolument formidable. Que ce soit dans l'affaire des fichiers ethniques, pendant 3 jours, je passe des coups de fil, machin, vous allez bouger pour dire comment ça se passe, tous en off. Il te parle de tout. Mais vous voulez pas public. Oh non, c'est trop sérieux, on va rien dire, machin, rien. Le bal des faux culs permanent. Là, sur tous les dossiers, c'est comme ça. Sur tous les dossiers, en coulisses, ils veulent bien un, mais il n'y en a pas un qui va venir pour s'exprimer.
Donc d'après ton enquête, tout ça c'est avéré, enfin tout ce qui a été décrit
ça
se fait dans tous les clubs.
Ah, la podcast c'est notre émission de mardi hein.
Bah ouais,
tu vas voir
gars,
que là
c'est absolument ça a existé, il y a aucun doute, de toute façon les documents sont là.
Ça participe
d'un système qui est beaucoup plus vaste. Ça veut pas dire que celui qui a fait caca dans le lavabo parce que d'autres ont fait caca avant, ça l'excuse pas du tout, mais le mieux c'est de nettoyer complètement le lavabo et essayer de voir comment ça a marché pendant des années, de pas s'arrêter sur des points précis.
Daniel.
Donc que notre football français à un moment réagisse et veuille travailler ensemble comme une grande société commerciale, parce que la concurrence elle est absolument
donc
terrible.
Donc voudrais quoi, mea culpa de il y en a un qui prenne la parole et un gros qui dise voilà, on a fait comme ça, on s'est trompé.
Non mais ça c'est
pas sur les fichages là.
Moi je parle plus du business en général. Si Didier Quillot renvoie déjà Tebas à l'Espagne, c'est déjà bien. S'il s'élève quand Rummenigge fait tout pour faire chier le PSG.
Tiens, top,
mais si derrière Jean-Michel Aulas, écoutons-le bien, je te dirai.
Écoutez Didier Quillot tout à l'heure.
Sur la forme, Javier Tebas est quelqu'un de formidable par ailleurs qui a développé la Liga à l'international et en Espagne de manière exceptionnelle. Je lui ai dit et je lui répète ici sur votre antenne ce soir, occupe-toi de ta Ligue espagnole. Petit 1. Ça c'est sur la forme. S'il te plaît Javier, occupe-toi de ta Ligue espagnole et continue à très bien bosser pour développer la Liga. Petit 2 sur le fond, les aides d'État. Donc, dont il parle, les fameuses aides d'État. Là, il a parlé de City. Donc, on aurait pu parler du PSG. Il a parlé de City puisque c'est
une aides d'État.
Bien. Donc, je vais rappeler à Javier Tebas qu'il y a quelques années, le gouvernement espagnol a fait un moratoire sur les dettes fiscales et sociales des clubs espagnols. Ça s'appelle aussi de l'aide d'État.
Voilà. Hein? Bam.
Il attaque. Il me semble que c'est une très bonne sortie.
Et tu aimerais que tout le monde embraye le pas.
Mais j'aimerais que de la même façon, Monaco, par exemple, là, ils sont bousculés de toutes parts. Bon, le président n'est pas là pour... mais que ça communique un petit peu plus qu'un communiqué de presse avec deux paragraphes pour dire « Non, on n'est pas des méchants. » Mais sortez du bois. Que Jean-Michel Aulas, qui se veut le grand boss du football français, mais range-toi derrière le PSG, parce que t'as intérêt à ce que le PSG soit fort pour croquer, au lieu d'espérer simplement dire « Ah, il y a distorsion de concurrence, on est trop loin, machin ». Mais c'est en Europe que ça se joue aujourd'hui, c'est pas dans les petits conflits de la Ligue 1, vous avez rien à gagner à ça. Même à Marseille, restez pas silencieux, vous aussi vous avez intérêt à ce que tout le monde aille dans le même sens en France. Même alors, si le PSG est devant avec 20 points, il vaut mieux que ce soit le PSG plutôt que vous n'existiez plus du tout.
Daniel, t'es d'accord Ludo?
Sur le principe, oui.
Il faut être un peu plus offensif.
Je pense, on a tout intérêt au vu de la situation actuelle. C'est vrai qu'on a une Ligue 1 qui est... alors après, on avait vu il y a quelques années un rayon de soleil parce que Monaco qui va jusqu'en quart ou demi de la Ligue des Champions. L'OM qui va en finale. Donc tu te disais bon, il y a du mieux, on avance. Et puis tout d'un coup, patatras, tout s'écroule. Donc Daniel n'était pas euphorique parce qu'il se disait bon, on va attendre quand même un petit peu. On a du mal à trouver une régularité, mais c'est vrai que notre football français mériterait qu'on on est attaqué de toutes parts. Donc si on est attaqué de toutes parts et qu'on n'est pas ensemble, forcément on va pas faire le poids. Donc je pense que oui, on a intérêt à se défendre en interne.
Il y a les meilleurs joueurs du monde. Il y a quand même un problème de structuration, de société, de modèle économique, de tout. Je veux dire, c'est pas normal d'avoir les joueurs qu'on a. Tiens, champion du monde, et tu seras peut-être vainqueur de l'Euro ou pas. Ben, on a quand même une base de joueurs aujourd'hui, un réservoir de joueurs. Tu prends les 50 meilleurs joueurs français, qui a ça? Pas l'Italie, pas l'Espagne.
Ils jouent pas en Ligue 1, le problème.
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de les garder. On les forme pourtant, hein. Ils sont pas partis à 14 ans. Il y en a un qui s'appelle Griezmann qui est parti parce qu'il est
parce que la plupart de nos clubs sont développés, se basent le développement économique sur la vente de joueurs.
Je rejoins ce que tu dis. Ça fait très peu de temps qu'il y a du trading en France. Avant, ils se battaient pour les garder.
Oui, mais là, maintenant,
on a enfin des gens en face de nous qui nous disent on peut le vendre cher. Mais avant, c'était pas le cas. Avant, ils voulaient garder les joueurs coûte que coûte.
Le premier point qui a été évoqué, c'est le plan fiscal. On n'a pas la même fiscalité que les autres, c'est plus compliqué.
Ouais. Sauf qu'en
là, on n'en est pas là, on est à quatre contre des équipes qui ont quatre fois moins de budget que toi, donc les impôts, c'est pas ça qui joue, là.
Oui, et puis il faut arrêter avec la fiscalité. C'est
ce qu'on nous souhaite.
Non, c'est ce qu'on, nous
c'est
aussi,
c'est ce
hein.
Les, je te dis pas les, que c'est la raison, c'est ce qu'on a mis en avant.
Oui, ce qu'on
nous souvent.
Oui, mais ça, c'est les fausses excuses de nos dirigeants, ça.
Tu sais ce que c'est la réalité? Et t'as fait l'étranger, t'as joué à l'étranger, t'as fait plusieurs peu. Le travail, la compétence et la passion. Travail, compétence, passion. Ce qu'ont les Espagnols, ce qu'ont les Italiens. Les Portugais, qu'on le veuille ou non, avec leur petit championnat, ça reste un petit championnat.
Quand tu dialogues avec les dirigeants des grands clubs que tu rencontres pour tes différentes affaires, ils te disent quoi, eux, du foot français? Ils te disent, vous, les Français, vous êtes des bidons, enfin, ils te disent quoi?
L'extérieur est très surpris qu'on ait les meilleurs joueurs et qu'on arrive à rien faire avec les clubs. Mmh. Sauf que quand tu vas dans les clubs en Espagne, en Italie, dans tous ces pays structurés, qui travaillent bien, les mecs, ils travaillent 15 heures, 16 heures par jour. Tu les appelles, tu envoies des mails, tu dis WhatsApp, ils sont là. En France, c'est, si t'es un Français, quoi. C'est trop cool. Alors, ça travaille pas. Il n'y a pas cette énergie.
Tu veux dire qu'on a un foot de branleur? Bah, c'est ce que t'es en train de dire.
Oui, quand même. Réduire au pays, mais il y a une mentalité qui découle que, on est quand même pas les plus grands travailleurs en France. Ben, tu le retrouves aussi dans le football. On n'est pas les plus focus, on n'est pas les plus concentrés, les plus concernés par les choses.
T'as une question.
Moi, quand j'amène beaucoup de clubs français à l'étranger visiter les autres clubs. Et chaque fois, ils sont là. Comme ils sont organisés.
Bah, c'est exactement comme quand les joueurs y vont.
Pareil.
Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Essayons d'être concrets. Au sein de la Ligue, la plupart des clubs, ensemble, décideraient de... Bah, on parlait de prime d'éthique tout à l'heure. Un peu comme sur le modèle NBA, qu'il y ait genre de charte de comportement pour tous les clubs et pour tous les joueurs qui soient quasi identiques, par exemple. Qu'il y ait ensuite... c'est difficile d'aller obliger les joueurs, les mecs à être bons en Coupe d'Europe s'ils ne le sont pas, ou en tout cas à mettre les vraies équipes, mais qu'il y ait une prise de conscience générale que notre niveau peut se dégrader, qu'on ne joue pas à moitié les Coupes d'Europe.
Si demain Kyo il rajoute des primes au club qui font des résultats en Coupe d'Europe interne, ils vont être encouragés à pas mettre l'équipe 2 pour jouer.
Par exemple, voilà. Mais c'est simple. Il y a plein d'idées que tu peux trouver.
Si tu veux le rassemblement, mais si tu veux le rassemblement, c'est pas assez pour pouvoir lutter contre les mauvais résultats non plus. C'est-à-dire qu'on fait bloc des attaques de l'extérieur, mais
ça, mais ça déjà si tu te sens fort, déjà moi, si tu te sens fort sur la com ou d'autres présidents viennent.
Daniel, le problème il est surtout sur qui est dans les clubs, qui fait quoi et comment le fait. C'est beaucoup dans club aujourd'hui. Moi qui ai fréquenté des clubs, t'as beaucoup de copinage. C'est le copain du truc, du cousin, du. On fait beaucoup de copinage dans les clubs et c'est on est dans
c'est
de
la perte la de compétences. Ça,
parce qu'aujourd'hui, les clubs qui fonctionnent le mieux. Eh ben regarde, hein, qui sont les directeurs sportifs, qui sont les mecs au recrutement, qui sont les mecs qui détectent les jeunes, qui sont les mecs à la. Et ça part de là. Quand tu vois notre système, la Fédé, moi qui suis maintenant, j'ai basculé un peu depuis pas mal de temps dans le football amateur. Je vois ce qui s'y passe, je vois comment on aide le football amateur, je vois comment sont formés les éducateurs. Il y a un manque quelque part. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux étoiles parce qu'on a une génération dorée.
Non, parce que t'as une génération qui très vite est partie à l'étranger. N'oublions jamais ça.
Aussi,
Griezmann, aussi. Lucas Hernandez, Varane, Pogba, les piliers.
Quand je dis doré, c'est t'as la chance qu'ils arrivent tous au même moment et qu'ils sont tous en même temps.
Donc enfin, quand ils étaient champions du monde il y a 20 ans, ils étaient partis plus tard. Les mecs, ils étaient partis après les titres.
Oui, mais ils avaient tous appris. Ils avaient.
Chez toi.
Non, mais déjà notre football à cette époque-là se portait beaucoup mieux. Tout simplement parce que les joueurs, tu les gardais plus longtemps parce que c'était avant Bosman. Donc déjà, tu avais un championnat qui était plus compétitif. Mais déjà, à l'époque, la plupart des joueurs avaient dit la haute compétition et la performance, on l'a appris à l'étranger. Beaucoup, Deschamps le premier le disait, De Sailly le disait. Là, pareil, les joueurs, au moins la moitié de l'équipe, sont des mecs qui sont formés au haut niveau, pas formés footballistiquement, qui ont passé le palier à l'étranger. Et ça compte, c'est pas dans nos clubs qui vont le passer, malheureusement.
Quand je vois, pour étayer mon propos, quand je vois l'Atlético Madrid, quand je vois le Borussia Dortmund, quand je vois des clubs comme ça qui pourraient être l'équivalent, il y a quelques temps, en termes de budget, d'un club comme l'OL, oui. Et regarde les gens qui travaillent, regarde le recrutement et regarde ce qui s'y passe. On est à des années-lumière du travail qui est fait là-bas.
Prenons le cas de l'Olympique Lyonnais, t'as quand même l'impression, c'est un club qui a des résultats économiques extraordinaires, qui a réussi à créer son propre stade, qui est un des clubs les mieux représentés dans le championnat européen en termes de joueurs formés chez eux. Bon alors, Olas, pas Olas, machin, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, c'est quand même globalement une réussite.
Structurellement, oui. T'es un grand club. Après, ton équipe, elle est pas à la hauteur de de l'attente de ta structure
et
regarde le Lyon d'il y a
Hoffenheim, mais tu regardes des joueurs,
les joueurs que tu prends, ils symbolisent pas le Lyon.
Aujourd'hui, ce
qui est aujourd'hui
le premier atout de Lyon, ce qu'ils vont te mettre en avant, c'est la valorisation du portefeuille joueur. Moi, j'ai juste envie qu'ils battent Hoffenheim et le Shakhtar en Ligue des Champions.
Bien sûr. Moi,
je veux bien le portefeuille joueur. Très bien, ça, tu sais le faire. On sait que tu sais le faire. On connaît le volet éco, machin. Mais si dans les années 2000 t'as pu être aussi bon que tu l'as été, peut-être il te manquait quelque chose pour un, mais tu peux pas
au bout d'un moment. Sur Lyon, Lyon, ils ont un modèle économique contre très peu de clubs en France et on leur tape dessus parce que justement ils sont trop dans le modèle économique.
On tape pas sur Lyon.
PSG, qui a pas de modèle économique parce qu'ils dépensent trop d'argent et on leur tape dessus.
Mais nous d'ailleurs, on a tendance à toujours mettre le bâton.
À un moment donné, quand tu vois l'Atlético et Dortmund, tu es en droit de te poser la question de savoir comment on travaille là-bas et comment on travaille chez nous. On peut se poser la question.
Mais l'Atlético Madrid, ce que personne sait, c'est que derrière, il y a des fonds d'investissement qui balancent du fric. Ce que disait tout à l'heure Hermel,
à Lyon, il y a pas les
il y a 10 ans, quand ils étaient au bord de la faillite, ils ont vendu leur terrain d'entraînement pour 650 millions d'euros à la ville de Madrid. Qui c'est qui a payé? Les contribuables et l'État. Parce que le club, il était au bord de la faillite il y a 10 ans.
Alors, Ludo, attends, on va accueillir Alexandre.
Dis pas ça à Mediapart, hein, parce que pour eux, c'est le PSG, le.
Salut, Alexandre.
Le plus grand truand de l'histoire du foot, hein.
Alexandre, alors, toi, t'es supporter de Porto, je vois.
Bah, en fait, moi, je suis pas réellement supporter de Porto. J'aime bien le football portugais, j'aime bien le football français et européen en général.
Tu as le droit,
Et je suis plus une personne qui supporte les joueurs que les clubs. Parce que.
Et là, on n'est pas loin du footix. Attention.
Non, pas du tout. C'est facile de dire ça. Je trouve que le footix.
Je plaisante.
Ça va faire presque une vingtaine d'années que je suis de foot. Et ce qui m'énerve en France, c'est qu'on se cache trop derrière le budget des clubs. Et ça m'énerve vraiment parce que quand je vois au Portugal ce qui se passe, que ce soit Porto, Benfica,
Braga, l'année où ils vont très loin en Coupe d'Europe, quand tu vois le budget de Braga.
On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Braga, même Sporting. Quand je vois en France Lyon et Marseille, mais Lyon et Marseille, c'est un budget qui est beaucoup plus important que Porto et Benfica. Et ça, je comprends pas pourquoi à chaque fois en Europe, on s'est enflammé l'année dernière parce que Marseille était en finale d'Europa League. C'est bien, mais faut regarder qui ont joué en face. Et normalement, Marseille, tous les ans, devrait aller en quart de finale minimum d'Europa League. Et on a du mal à passer les poules en Ligue des Champions. Je parle pas du PSG parce que le PSG c'est plus pareil, c'est comme vous parliez tout à l'heure, ça fait partie maintenant du top 10, il pourrait être dans une ligne fermée, c'est pas tout à fait pareil.
Non mais nous c'est alors pareil, on parle souvent de ça dans l'after, mais c'est vrai que les budgets, tu vois, les clubs ukrainiens qui vont loin en Coupe d'Europe, ils ont quand même pas le budget des clubs français, elle est bien d'accord.
Moi j'ai toujours dit, moi si tu te fais battre par une équipe, t'es Lyon, tu perds contre le Real, le Barça, Manchester, ok, tu t'es battu, t'as fait ce qu'il fallait pour tenter l'exploit, tu perds, ok, mais pas que tu bats pas Hoffenheim, le Shakhtar, que tu perds contre Copenhague et toutes les équipes ukrainiennes, mais même pas en rêve, t'arrives à les accrocher. Après, maintenant, c'est insupportable.
Ce qui est gênant, j'en parlais dans Team Liga tout à l'heure, pour moi, c'est la philosophie des clubs par rapport à la Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'on la joue pas. Enfin, on se moque du monde. Nos clubs français se moquent du monde.
Après, moi qui ai joué, j'ai plus de 50 matchs d'Europa League.
Mais ouais, t'étais pas sur la pelouse quand Giggs, il fait le coup du coup franc.
Bien sûr, j'étais sur la pelouse. J'endors encore pas les nuits, ce coup franc là.
Et que vous êtes allé pleurer chez l'arbitre alors qu'il y avait totalement raison.
Non, mais là aussi, on a été remis à notre place, quelque chose sévère. C'est-à-dire, on a dit non, nous on sort, terminé, on pose une réquisition. T'as les mecs de l'UEFA qui sont arrivés au bord du terrain, ils ont dit oh les petits nordistes là, si vous avez envie de revenir en Champions League, vous avez intérêt à retourner sur le terrain parce que sinon vous revenez plus jamais. Ouais, je peux te dire qu'on est reparti ni une ni deux et on s'est fait enfumer comme il fallait. Et en plus, tu le vois, l'arbitre, il lui demande, vas-y, je peux tirer, vas-y. Enfin, ça a été dur à avaler, hein. Mais quand t'es un petit, tu la fermes et puis tu reviens l'année d'après, t'essayes de grandir et jusqu'à ce que... Mais ça a été dur à voler,
Non, parce que là, ce qui se passe là sur il y a plein de débats actuellement sur le foot français est en régression. Moi, pour ce qui symbolise ça, c'est la Coupe d'Europe, on est bien d'accord. Bon,
c'est un indicateur en tout cas.
Le calibrage,
il est pas en régression, il est régulier par rapport à son histoire.
Sauf que la Coupe d'Europe joue là, quoi. Et arrêtez de nous prendre pour des blaireaux. On tient ce discours depuis 15 ans.
Moi, je pense qu'il a joué que notre niveau est encore pire qu'avant.
Alors, pas dans les clubs, en tout cas.
Le football espagnol progresse, le football portugais est à peu près stable.
Le football italien progresse.
A vachement repris avec l'argent des droits télé et les recrutements qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, le problème enfin, c'est la disparité. Est-ce que le PSG devient de plus en plus grand, les autres deviennent de plus en plus petits et mauvais. Et c'est ça le vrai problème.
Alors que tout le monde devait profiter des... Alors les droits télé vont être effectifs l'année
mauvais
prochaine.
Mauvais sur la chaîne européenne.
Mais
Oui, mais même, je veux dire, au niveau
national. Ils sont
national,
quand même en augmentation.
Monaco avant, on prenait pas 4 à la maison contre Paris. Marseille cette année contre Paris, bon, c'est compliqué. L'année dernière, c'était moins. L'année dernière, le match de Paris à Marseille, c'était passé différemment. Marseille a failli gagner. S'il n'y a pas l'égalisation à la dernière minute, machin. Tu as vu le match cette année, c'était pas le même match. Le match de PSG à Monaco cette année, c'est encore pas le même, pareil que l'année dernière, il y a deux ans. Pour moi, il y a une disparité de plus en plus profonde et c'est inquiétant.
Alexandre, j'ai les petits cadeaux là. Je te laisse le choix entre deux places pour aller voir la pièce de théâtre de Franck Leboeuf. Boeing. Et on a ça, nous.
Attends,
ou alors j'ai le bouquin de Villas, toi qui aimes le foot portugais, mais il parle pas tout portugais dedans, c'est Roquette sur le racisme dans le football. Donc Alexandre, je te laisse choisir.
Et Daniel, il aurait pas plutôt un bon bouquin à me filer?
Ouh, ça c'est un compliment ça.
Tu veux quoi?
Il veut pas du bouquin de Villas, Alexandre, t'as vu?
Prends le bouquin de Nico, il est tout frais.
Non, parce que j'ai lu celui où tu dégommais pas mal de personnes et j'ai trouvé bien, j'ai dégommé en une après-midi. Et j'ai pas acheté
pour Racaille Football Club.
Mais il est vieux celui-là, j'en ai plus, il a 5 ans celui-là, j'ai plus celui-là.
Ah bah sur eBay, il y en a qui traînent, t'inquiète, pour 2,50€ tu vas en trouver.
Je te rappelle qu'il t'a traité de footix hein, en début. Hein.
Bon Alexandre, je t'envoie le bouquin de Villa, t'as pas le choix, c'est cadeau.
Super
pied
gauche.
Ah merci.
Salut Alex, à très bientôt.
Salut Alex.
On est là avec Ludovico Bragnac, avec Daniel Riolo, avec Yvan Lemay, agent qui est avec nous ce soir. Avant de parler de l'équipe de France, Thibaut nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat d'il y a quelques instants sur le modèle français. Thibaut, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs.
Salut Thibaut, on t'écoute.
En fait, mon opinion c'est que en France, quand on parle des championnats étrangers, on parle du football anglais qui est enlevé, dynamique, où il y a de l'intensité. On parle du championnat espagnol, où il y a de la technique, de la vivacité. On parle du championnat allemand, où... En fait, tous les championnats ont un peu une identité de jeu assez propre. Et quand on parle du championnat français, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop qu'est-ce que le championnat français, qu'est-ce que le football français. Bon, quand les étrangers arrivent, ils disent, bon, c'est physique, c'est dur, les équipes sont agressives. Mais finalement, on n'a pas vraiment d'identité de jeu propre, vraiment marquée. Il n'y a pas un label Made in Ligue 1, où il n'y a pas quelque chose qui fait que, quand on parle du championnat de France, ça attire. Voilà, quand on parle du championnat anglais, ah ouais, franchement, tu vas en Angleterre, c'est intense et tout, on dit, ah ouais, je vais regarder un match anglais. Quand on parle du championnat de France, on se dit, tu vas regarder un championnat de France, ouais, mais c'est quoi le football français? Je sais pas trop, je sais pas trop comment ça joue, il n'y a pas d'identité.
Ça joue bloc bas et plutôt physique, c'est simple.
Avec une identité de jeu. Et ça, c'est un problème, parce que finalement, on se rend compte qu'un entraîneur comme Favre, qui est arrivé à Nice, qui a vraiment imposé un style à une équipe, à cette équipe, Favre, il va à Dortmund, alors qu'en réalité, au lieu de signer à Nice, Favre, il aurait dû signer dans un club comme Marseille, dans un club comme Lyon. C'est là qu'est sa place, en fait, à Lucien Favre, dans un club qui a vraiment le potentiel de jouer une Ligue des Champions, d'avoir un potentiel.
Ça, c'est sûr qu'à Marseille, il aurait fait l'affaire, sans problème.
Jardim, aujourd'hui, Jardim qui n'est plus à Monaco, j'espère quand même, que Marseille, que je sais pas quel club, mais un club qui en tout cas envie de grandir, j'espère qu'un de nos clubs va rappeler cet entraîneur en lui proposant un projet intéressant. Parce qu'il faut pas, on parle de la fuite des talents en parlant de la fuite des joueurs, des joueurs qui vont à l'étranger, mais on se rend compte qu'il y a une fuite même des entraîneurs. C'est-à-dire que le niveau de nos
Thibaut, ça me donne ça me provoque une autre réflexion sur tout ce que tu dis qui est intéressant. C'est qu'on râle après, c'est vrai qu'on dégage pas l'image à l'étranger là dont on parlait tout à l'heure et on se défend maintenant, mais on dégage pas un truc hyper sexy et après on va pleurer qu'on n'arrive pas à vendre les droits internationaux. Mais c'est vrai, qui va te les acheter, les droits internationaux?
Excuse-moi, les droits internationaux, ils ont été vendus une bouchée de pain pour un contrat longue durée
à Bein
jusqu'en 2024.
Bon,
Et cette vente là a joué un grand rôle et a donc fait perdre beaucoup d'argent au football français, se plaint souvent de pas en avoir assez. C'est le président de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai. Donc, qui de ce côté-là, c'est bien planté. Entre ça, plus sa vraie fausse participation aux discussions Champions League avec le cartel européen, au niveau du foot français, il s'occupe de Lyon, quoi.
Thibaut, bravo. En tout cas, je t'envoie les deux places pour le spectacle de Franck Leboeuf. Hein. C'est cadeau. Faut aller le voir. Il est presque aussi bon que sur le terrain.
Mais on en revient.
80 millions sur 10 ans, c'est une bouchée de pain quand même.
Qu'est-ce qui fait les clubs, la matière première des clubs, ça reste les joueurs. Comment tu composes ton équipe? Est-ce que l'entraîneur en Angleterre, il y a aussi une identification parce que c'est souvent le manager, l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. On vire rarement, alors ça se fait un peu plus maintenant, mais l'entraîneur, le manager en Angleterre, il était là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il avait le temps de construire, des affinités au sein de son équipe. Je décide de jouer avec deux fausses pattes, Wenger, Ljungberg, Pires d'un côté. Il me faut des latéraux qui dédouent pour les faire rentrer. Enfin, c'est toute cette composition qui fait que c'est le choix des hommes, au final, qui crée un club.
Et là-dessus, on est en retard.
Mais je pense que les gens qui prennent les décisions en haut lieu se trompent, connaissent peut-être pas assez le football ou se trompent sur leur vision du football quant au comment créer une équipe par rapport à l'ADN de notre football.
Messieurs, on va passer aux infos du jour. Il y en a plein. Pour conclure sur les Football Leaks, l'enquête interne du PSG ce soir, c'est le club qui communique. Hein. L'enquête interne qui avait été commanditée par le club démontre, c'est le club qui le dit, qu'il n'y a pas eu de cas avérés de discrimination. Alors une enquête qui s'est fondée sur l'analyse d'échanges d'emails, donc entre les différentes cellules là, de recrutement et leurs membres, et sur une série d'entretiens menés avec les salariés du club depuis quelques jours, salariés en charge du recrutement et du centre de formation. Donc voilà ce que dit le club ce soir.
De toute façon, à moins
pas de cas avérés de discrimination.
À moins d'être malvoyant, je veux dire, allez imaginer un truc pareil. Enfin, on a essayé, on en a parlé, qu'on prenne qui pourra.
L'équipe de France, les gars, demain, donc l'équipe de France est à Rotterdam ce soir. C'est là que l'équipe de France a gagné l'Euro 2000 d'ailleurs. C'était dans ce stade, la finale de l'Euro 2000 à Rotterdam. Demain, j'ai le 11 de départ, Loris dans les buts, Kimpembe Varane en défense centrale, Digne titulaire avec Pavard de l'autre côté.
Qui ça?
Digne, Lucas Digne. Titulaire.
Qui fait une bonne saison à Everton.
Digne, Pavard.
Pavard qui est...
mais qui joue à défense centrale.
Coussa, il est plus au Coussa alors.
Ouais, mais attends, Pavard, tout le monde dit Coussa, mais Pavard, personne ne voit ses matchs. Hein. Déjà, ils ne sont pas diffusés en France. Stuttgart, tu ne les vois jamais.
C'est vrai qu'on ne les voit pas. Mais
comme si on tous les mecs te disent, Pavard, il est nul, mais personne ne les voit.
Gilbert, si tu lis compte rendu d'un match, il est mauvais dans une équipe qui est dernière du championnat, déjà ça me donne quand même 2-3 indices quoi.
Non mais il peut être le meilleur de son équipe qui est derrière le Bundesliga. Non,
quand tu joues défenseur central gauche en étant droitier dans une défense à 3 et que Deschamps le prend pour jouer latéral droit 4 derrière, c'est pas le même football non plus, c'est pas la même histoire.
On est bien d'accord. On aura demain Kanté, Zonzi devant la défense, donc 4-2-3-1 là, et puis ensuite la ligne de 3, Mbappé, Griezmann, Matuidi et Giroud en pointe.
Normal quoi.
Voilà
les milieux ultra renforcés
de demain.
Giroud, parce que j'ai pas suivi, a toujours pas prolongé, a rien fait avec Chelsea, là, il y aura 6 mois de contrat.
Ouais, je crois pas, non.
Comme tout le monde parle toujours pour l'attaquant, pour Marseille, si Marseille va pas dessus, là, avec 6 mois de contrat, avec Chelsea, c'est quand même le meilleur moment, c'est Morata qui joue, il joue pas.
Si t'as pu mettre les sommes qu'on a évoquées pour Balotelli, tu peux les mettre pour Giroud.
Me semble-t-il.
Combien il proposait à Balotelli? L'OM?
500 000 de salaire?
De salaire? Ah, c'est monté jusqu'à 700.
700 000.
Brut.
Bah, il faut dire que Rudy Garcia le voulait vraiment.
Hein. Ludo.
700 000.
Eh ben, dis donc. Bravo.
On a une petite idée de l'équipe des Pays-Bas. Je peux vous dire que Memphis Depay sera titulaire demain. Tu disais, Daniel, pardon?
Non, je dis heureusement que les dirigeants ont pas cédé à l'entraîneur.
C'est dingue parce que moi, j'ai pas senti dans sa communication. Bah, Rudy, je l'ai côtoyé aussi, toi aussi. Enfin. Alors toi, t'as le côté Rudy plus dans le privé. Moi, je l'ai connu aussi un peu, mais en tant que plus l'entraîneur. Mais dans sa communication, j'ai quand même pas senti qu'il le voulait plus que ça, Mitroglou. Il s'est appuyé, pas Mitroglou, Balotelli, pardon. Oh, putain. Mitroglou, il l'avait pas voulu non plus.
Mitroglou, c'est une autre histoire à mon avis.
Mais tu crois qu'il le il l'a vraiment voulu, Balotelli? C'était vraiment son choix.
Balotelli, il avait pas de marché cet été. Il y a personne qui en voulait. Raiola s'est servi de la proposition de Marseille et je reste convaincu qu'à Marseille, pour être Marseillais, on a besoin d'avoir un peu un attaquant un peu différent, déglingué. Et tu peux pas dire qu'il a pas la qualité. Il fait 1m89, il va 2000, il est capable de dribbler le joueur 3x3. Faut qu'il ait envie de courir, qu'il ait envie de jouer. Est-ce que t'es capable de lui donner ça? Rudy est capable de donner ça, je pense, au joueur. Tu l'as fait, il s'est tiré le maximum. Je pense qu'il pensait lui qu'il était capable d'arriver à faire le max avec Rudy.
Il a parlé
les dirigeants qui n'ont pas l'expérience, parce que ce sont pas des dirigeants malheureusement qui ont fait 20 mercato dans leur vie. Avant, ils géraient Internet, c'est pas gérer des transferts, encore une fois. forcément, c'est un peu plus compliqué.
Tu penses que ça aurait été une bonne idée que Balotelli vienne à l'OM? Tu penses que son destin aurait pu être modifié?
Je pense qu'à l'OM, on n'a pas eu un attaquant d'envergure avec une image au-delà de la qualité de joueur depuis très longtemps. On a eu des bons joueurs sans image ou des mecs avec de l'image, mais pas le ballon.
Donc tu penses que Balotelli
il avait les deux réunis.
N'aurait pas été gros, je serais bougé le cul.
Je sais pas, je pense qu'il aurait fait le maximum. Je pense que quand il est dans ce stade, ça donne envie de courir.
Oui,
même
oui.
Si tu es sur qu'une jambe, tu vas courir.
Mmh, possible. Alors,
après, il serait quand même arrivé avec 6 kilos trop. C'était pas sérieux ce qu'il a fait non plus d'arriver à Nice avec du poids. Mmh. Mais je pense qu'à Marseille, il aurait pu y arriver. Mmh. Après, c'était le serpent de mer. Ce qui m'a énervé, moi, personnellement, c'est que tu peux pas, si tu es un dirigeant responsable, rester 2 mois focus sur un joueur. Il y a aucun
sentiment
qu'il fait. Mmh. Au bout de 3 semaines, 1 mois que tu arrives pas, tu penses à autre chose.
Sans avoir un plan B.
Sans avoir un plan B, et à la fin on te dit non mais en fait on cherchait pas d'attaquant et puis on prend un 6
mais
qui lui court sur une jambe.
Connaissant
pourquoi il court sur une jambe?
Bah, il a eu 2 blessures au jeu quand même. Trou Schmidt, ouais. C'est de notoriété publique. Genre en Italie c'était tous morts de rire. Et Monchi, pour qu'il t'envoie le joueur en 3 jours, c'est qu'il y a un problème. Monchi, ouais. Les joueurs ils les gardent.
Mais l'année dernière il a été bon quand même.
Ouais, mais si tu regardes bien sur les gros matchs il est bon, il court. Sur les matchs moins importants, il a mal.
Et connaissant le personnage. L'association Garcia-Balotelli, je suis peut-être au début, ça aurait, il aurait réussi à entretenir il est trop rude, il est trop exigeant envers ses, l'autre il aurait pas suivi
il sait aussi prendre, mais l'autre il est quand même
il faut se le farcir quand
même. Dis-moi, il y a un mystère quand même, Yvan, t'es Marseillais, mais normalement t'es Rennais ou Guingampais avec un nom pareil.
Ouais, c'est vrai qu'Yvan Lemay,
à Marseille, c'est chelou cette histoire.
Mon père est breton et ma mère est napolitaine, donc c'est un grand croisement.
Très bien. Ah oui, donc à mi-chemin.
J'ai plus passé de temps dans le sud de l'Italie que dans le nord de la Bretagne.
Très bien.
Et surtout Marseille de toujours. Quoi.
Bon, notre producteur qui est de Rennes nous dit c'est bien dommage. Bon, c'est comme ça.